Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 15e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler du très haut débit et plus particulièrement des protocoles et logiciels optimisés pour ces réseaux. Pour en discuter, nous recevons Pascale Vicablan-Primé, directrice de recherche INRIA. Pascale Vicablan-Primé, bonjour.
Bonjour.
On a beaucoup entendu parler de fibres optiques et de réseaux très haut débit suite à la loi de modernisation de l'économie. Pouvons-nous faire un point sur ces deux termes pour lever toute ambiguïté ?
La fibre optique est un moyen pour acheminer l'information sous une forme lumineuse, contrairement à ce que l'on utilise aujourd'hui, par exemple à travers la technologie ADSL, qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques qui sont guidées dans un câble en cuivre.
Et quel est l'avantage de la fibre optique par rapport à la technologie ADSL, par exemple ?
L'avantage de la fibre optique, c'est essentiellement d'être beaucoup plus fiable et surtout de permettre des plus grands débits que la fibre cuivre.
Rappelons pour ceux qui ne le sauraient pas que la loi de modernisation de l'économie va pousser en fait le déploiement à très large échelle de la fibre optique dans toutes les maisons en France.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le FTTH, c'est-à-dire the fiber to the home, la fibre à la maison. Et l'idée de la loi de modernisation, c'est de pouvoir avoir dans toutes les maisons, au même titre que le téléphone, l'eau ou l'électricité aujourd'hui, cet accès donc à un grand réseau qui est le réseau Internet de demain.
Et le réseau très haut débit dans tout ça ?
Les réseaux très haut débit sont justement constitués par ces fibres optiques. Alors on parle ici de réseaux très haut débit fixes, hein, puisque les fibres sont placées donc dans les sous-sols ou sous les océans et donc permettent de transporter donc ces ondes lumineuses à très longue distance.
Pourquoi précisément parle-t-on de réseau très haut débit ?
Alors, un réseau, en fait, c'est une interconnexion de fibres avec des équipements qui vont émettre ou recevoir ces ondes. Typiquement, les débits aujourd'hui, donc c'est la vitesse avec laquelle vous pouvez transporter des informations. Aujourd'hui, sur une fibre ADSL, vous allez pouvoir transporter de l'ordre de 10 mégabits par seconde. Sur les réseaux très haut débit, on est dans des ordres de grandeur qui sont 100 à 1000, voire 10 000 fois plus importants.
Le très haut débit semble plein de promesses, mais la France est plutôt à la traîne par rapport au Japon ou aux États-Unis. À quel niveau se situe le problème selon vous ?
Il est effectivement vrai que le déploiement des fibres à la maison, donc la technologie FTTH, est moins avancée en France qu'elle ne l'est au Japon, qui ont pris le leadership d'il y a plusieurs années et qui aujourd'hui donc ont fortement câblé l'ensemble de leurs immeubles. Et aux États-Unis où aussi on a eu un très grand nombre d'initiatives de câblage dans les grandes villes, notamment à New York. La France est en train de compenser son retard au niveau du câblage, mais au niveau même de la technologie optique, on est loin d'être à la traîne puisque la France est dotée du leader mondial dans ces technologies, donc avec notamment donc Alcatel-Lucent qui donc sur la partie câble, mais aussi sur la partie technologie optoélectronique et donc le leader mondial.
Vous êtes à la tête du projet réseau dont l'objectif est de proposer des nouvelles solutions en termes de protocoles, de services et de logiciels pour les réseaux très haut débit. Qu'entend-on par protocole ?
Un protocole est un programme qui va être séparé en deux parties. Une première partie se situe du côté de l'entité qui va envoyer les données, ce qu'on appelle l'émetteur, et l'autre partie, c'est donc du côté du récepteur. Et le protocole, c'est un ensemble de règles qui vont être codées sous forme donc de deux programmes qui sont combinés et qui permettent de transporter l'information donc à ces deux entités, l'émetteur et le récepteur, de s'entendre sur le langage qu'ils vont utiliser. Il faut qu'ils parlent la même langue pour pouvoir communiquer. Il faut qu'ils se synchronisent, il faut qu'ils démarrent en même temps et que le récepteur sache que la conversation a commencé ou quand elle se termine. Et donc, ils vont aussi s'entendre sur, par exemple, le nombre d'informations, le volume d'informations qui va être transmis, de façon à vérifier que l'ensemble du message a bien été transmis.
Vous étudiez le problème de l'utilisation efficace du réseau très haut débit dans le contexte des grilles haute performance. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une grille et pourquoi vous focalisez sur ce point-là ?
Alors, nous nous intéressons à la question de la transmission des informations dans le contexte des grilles, parce que pour nous, les grilles, ce sont les ordinateurs, les infrastructures de calcul de demain. Et nous pensons aussi que ce concept des grilles va converger vers l'Internet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grille ? C'est la mise en commun via donc l'interconnexion par des réseaux d'un très grand nombre de calculateurs, d'ordinateurs, qui donc en se mettant ensemble sont capables de résoudre des problèmes de très très grande dimension, ou bien de résoudre des petits problèmes d'un très très grand nombre de gens.
Vous proposez des nouvelles solutions au niveau des protocoles et des logiciels que vous optimisez donc pour les réseaux très haut débit. Quand on parle de solutions, cela signifie quelque part qu'il y a des problèmes. Donc quels sont ces problèmes ?
Aujourd'hui, sur les réseaux, qu'ils soient donc basés sur de la fibre cuivre ou de la fibre optique, ces réseaux utilisent tous le même protocole qui est le protocole IP et au-dessus utilisent le protocole TCP qui coordonne l'émission des paquets d'informations sur ce réseau. Initialement, ces protocoles ont été définis pour transporter des petits documents, donc ça constitue ce qu'on appellera aujourd'hui des souris. Et d'un autre côté, c'était donc dans un contexte bas débit, c'est-à-dire que les paquets partaient assez lentement dans le réseau. Aujourd'hui, avec donc les très hauts débits, on a des quantités d'informations qui arrivent de façon très très rapide, sous forme de rafales, et donc les différents équipements qui sont sur la chaîne de transmission ne sont pas capables d'absorber les grandes variations de ces trafics, donc c'est ce qu'on appelle les bursts, ces rafales, qui donc peuvent venir de plusieurs utilisateurs en même temps et qui vont générer des périodes de saturation qui peuvent être très importantes. Et du coup, les utilisateurs aux extrémités qui doivent s'assurer que les informations sont bien transmises doivent renvoyer à nouveau donc, les informations et de nouveau, vous pouvez générer des collisions. Et ça se passe d'autant plus mal que les réseaux sont de plus haut débit et sur des plus longues distances.
Donc là, à terme, ça veut dire qu'on arrive à des infrastructures qui ne suivent plus la technologie ?
Voilà, donc on a, au niveau du matériel, on a d'énormes capacités. On dote toutes les entités de capacités de transmission très très importantes, mais on n'a pas les logiciels qui permettent de coordonner les échanges sur cet ensemble de ressources, donc sur ces réseaux qui sont partagés par de plus en plus de monde.
Alors concrètement, quelles sont les solutions que vous proposez ?
Aujourd'hui, les paquets sont transmis, je dirais, de façon indépendante. Chacun part dans le réseau et se débrouille comme il peut pour arriver à destination. Nous, ce que nous proposons, c'est donc d'une part, une fois que l'utilisateur a spécifié donc, ses intentions de transmission, c'est de lui réserver un chemin dédié pendant la durée de la transmission de son information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le passage au mode circuit, comme on l'avait initialement dans le téléphone, qui permet d'avoir des garanties sur la transmission des informations.
Pour finir, le réseau du futur, ça ressemblerait à quoi selon vous ?
À terme, le réseau va devenir une vraie ressource qui va être gérée, qui va être louée, comme aujourd'hui on commence à louer des ordinateurs à distance, comme par exemple le service EC2 d'Amazon. Et donc, on pourra, donc, dans un futur proche, composer ce qu'on appellera une infrastructure virtuelle pour ses propres besoins pendant la durée que l'on voudra. Donc l'Internet sera en fait le réservoir de l'ensemble des ressources que l'on pourra composer pour fabriquer ces infrastructures. Donc ils seront des infrastructures qui nous permettront soit de faire des gros calculs, ça c'est intéressant par exemple pour les petites entreprises qui ne peuvent pas acheter des gros calculateurs pour faire des simulations par exemple, mais ça peut être aussi intéressant pour des utilisateurs individuels qui veulent faire des applications de type téléprésence avec des images très très haute définition et discuter donc en temps réel avec des interlocuteurs à l'autre bout de la planète. Donc pour moi, l'Internet du futur, ça sera un réservoir dans lequel on va venir puiser des ressources pour faire du partage de contenu et d'idées à la demande.
Est-ce qu'on peut dire que votre démarche a quelque chose d'écologique finalement ?
Oui, alors la fibre optique et l'utilisation donc pour des applications de ce type-là a effectivement un caractère qu'on appelle clean tech. C'est relativement effectivement écologique. L'autre aspect qui peut être aussi écologique, c'est de dire on va partager nos équipements. Donc moi, je crois beaucoup au partage de ces ressources donc de calcul. Donc mettre en commun les ordinateurs, les relier et faire en sorte que donc qu'ils soient peut-être regroupés dans certains endroits dans lesquels on a par exemple plus de facilité pour refroidir. Hein. Il faut savoir qu'un ordinateur, ça consomme de l'énergie, mais ça a aussi besoin d'énergie pour être refroidi, pour la climatisation. Donc si on arrive à mettre ces ordinateurs dans des pays froids et aller chercher à envoyer des données, à récupérer les résultats à travers un réseau, ça permet aussi de changer un certain nombre de problèmes énergétiques. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'au Japon, il y a eu des études de fait sur les problèmes énergétiques dus au fonctionnement de l'Internet, et les Japonais ont conclu qu'en 2020, ils n'auraient pas suffisamment de capacité énergétique pour alimenter leur Internet propre. S'ils gardaient, je dirais, les technologies classiques. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont passés très rapidement à la fibre optique.
Merci Pascal Vicablan-Primé d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.